GIEC 27. La fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio Campus Angers. Comment trouver des solutions locales au réchauffement global? Le 103 FM s'engage et vous propose une heure de décryptage, de science et de réflexion. GIEC 27. Votre émission d'écologie, c'est tous les troisièmes lundis du mois, 13h-14h, sur les ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans GIEC 27. Aujourd'hui, on parle de climat et de hausse des températures. Mardi 12 mars dernier, dans son rapport annuel, la Cour des comptes affirmait que les villes n'étaient pas prêtes aux canicules à répétition. Les stratégies qui ont été adoptées par le passé sont tardives, partielles et pas assez efficaces. Ce qui est rassurant tout de même, selon la Cour des comptes, c'est que l'État a pris la mesure de l'ampleur de l'adaptation nécessaire, sans pour autant oublier la lutte contre ce fameux réchauffement climatique. La mise en action toutefois reste encore difficile. L'institution pointe un manque d'information et de volonté politique. Pour opérer un réel changement, il convient d'agir à plusieurs échelles, celle de l'individu, celle de l'entreprise et celle de la décision politique. Dans cette émission, nous allons tenter d'évoquer ces trois niveaux. C'est aussi la démarche de la fresque du climat. Nous nous sommes rendus dans un de ces ateliers, un reportage que vous pourrez retrouver dans cette émission. Nos invités du mois vont nous aider à saisir de nombreux enjeux au niveau global et local. Vous entendrez Xavier Mettet, de France Nature Environnement, et Jean Hainaut, professeur et co-référent Maine-et-Loire de la fresque du climat. C'est parti pour ce nouvel épisode de GIEC 27. Restez bien avec nous sur Radio Campus Angers.
GIEC 27. La fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio Campus Angers.
Pour commencer, je suis allée voir l'antenne locale de l'association France Nature Environnement. Xavier Mettet m'a reçu dans leur bureau. Bonjour Xavier Mettet. Il y a quelques semaines, Météo France annonçait que l'hiver 2023-2024 avait été le troisième hiver le plus chaud jamais enregistré. Il y a quelques jours, c'était l'Observatoire européen Copernicus qui révélait que le mois de février dernier était le plus chaud jamais enregistré dans le monde depuis l'ère pré-industrielle. Donc là, on a des données nationales et globales. Est-ce que c'est une tendance qu'on observe aussi dans notre région ?
Bah oui, tout à fait. Le Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire ne sont pas à l'abri de ces hausses de température. Ce qu'on a pu aussi entendre ces dernières semaines, c'était le mois de février 2024, était le 15e mois d'affilée où on battait le record de chaleur, où chaque mois battait le record de l'année précédente et des années passées. Donc voilà, donc on est sur une phase là, de ce que les météorologues craignaient un peu. C'est une accélération du réchauffement climatique qui s'explique par différents phénomènes pas naturel, hélas, mais parce que provoqué par l'homme, ce réchauffement climatique. Mais voilà, on rentre dans une boucle un peu vertigineuse de hausse des températures.
C'est pire que ce qui avait été prédit ?
Ben, on est sur le scénario un peu haut, on va dire. Il y avait plusieurs, le GIEC, là, avait plusieurs scénarios de hausse des températures. Et on est plutôt sur la fourchette, hélas, haute. Quand je dis hélas, parce qu'on aurait bien aimé être plutôt sur la fourchette basse, avec des impacts moindres. Là, au fait, on est, notamment en France, et d'autant plus dans notre région angevine, on est dans un territoire de température tempérée. Et c'est effectivement ces territoires-là qui, au niveau mondial, vont le plus souffrir et avoir le plus d'impact sur les hausses de température.
Donc on va en reparler du GIEC, notamment du GIEC Pays de la Loire. Et juste pour finir sur les hivers, en gros, ça veut dire que les hivers sont moins longs et moins froids, c'est ça ?
Mais c'est exactement ce qui se passe. Là, on se demande même s'il y a eu un hiver en cette période de fin d'année 2023 et début de l'année 2024, à tel point que, par exemple, dans les Pyrénées, une grande partie des ours ne sont pas rentrés en hivernation. Voilà, ils sont restés à se balader, à se promener, puisqu'ils trouvaient de la nourriture qu'ils d'habitude ne trouvent pas, puisque l'hiver, il n'y a plus de petits animaux, etc. Ce qui veut bien dire que ces hausses de température, ou qui peuvent faire plaisir à certains de se dire « Ah, on peut être en terrasse en plein mois de février, et je peux boire un verre en sortant de mes cours d'université, je suis pratiquement en t-shirt début mars », Ben non, c'est pas normal. La nature a besoin de froid, pour pouvoir justement se régénérer, se reposer. On a aussi certaines espèces végétales, parfois plantes exotiques envahissantes, etc., qui ne supportent pas le froid. Et c'est justement une façon que la nature a de réguler des espèces qui prendraient le dessus. Et donc là, on n'a plus ces hivers froids qui viennent stopper des fois la propagation ou la trop grande présence de certaines espèces végétales, voire animales. Voilà. Et donc notamment sur des maladies, sur des ravageurs, qui viennent impacter nos cultures. Quand on n'a pas un hiver froid, tout ça va repartir très très fort au printemps, d'autant plus s'il est pluvieux. En plus, cette année, on est sur une année, heureusement, aussi avec de la pluie, après les années où il n'y a pas eu de pluie. Et donc là, on risque d'avoir un cocktail chaleur, humidité, qui va faire qu'effectivement, on va repartir au printemps avec certainement, pour nos agriculteurs, pas mal de soucis sur leur culture.
Donc des conséquences au niveau de l'environnement, de la biodiversité, et on observe aussi les conséquences de ces hausses de température sur la santé des humains. On a pu voir par exemple qu'on était de plus en plus sensible au pollen. En fait, tout est déréglé.
Oui, alors là, c'est la même chose. C'est-à-dire que normalement, le pollen n'arrive qu'à une période de l'année qui est au printemps. Et il y a des espèces végétales précoces, puis d'autres tardives sur les émissions des pollens. Et ça, c'est connu. Et là, on se rend compte que finalement, avec l'augmentation des températures l'hiver, ces hivers chauds, ces pollens peuvent être émis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus tôt. Voire, on a une profusion parfois de pollen parce qu'on a certaines espèces végétales qui font une deuxième floraison qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, on arrive avec l'émission de pollen aussi à l'automne, ce qu'on n'avait pas. Donc, en fait, notre corps, qui d'habitude avait besoin de repos par rapport à ces agressions, parce que le pollen vient agresser notre organisme qui vient se mettre en autodéfense comme s'il luttait contre un virus, et à un moment donné, notre corps n'est plus en capacité de se défendre, et puis on fait une réaction allergique, les yeux qui gonflent, le nez qui coule, etc. Et donc on est beaucoup plus sensible à ça. Et ça, c'est pas anodin. Il y a de plus en plus, notamment d'enfants, qui sont touchés par ces phénomènes d'allergie au pollen, qui peuvent amener des complications sur certaines personnes peuvent être déjà fragiles. Et ça a un coût. Ça c'est un coût pour notre santé, mais ça a un coût aussi financier, je pense, pour la sécurité sociale, mais aussi pour notre société, etc.
Sur notre territoire, concrètement, est-ce qu'il y a d'autres conséquences, que ce soit sur la santé ou sur la biodiversité, dont on n'aurait pas encore parlé?
Alors, on peut peut-être penser aux conséquences on parle là des canicules, des épisodes de canicules, et puis de plus long terme de ces hausses de température qu'on a un peu toute l'année, avec des pics parfois très forts. On a eu des douceurs là en janvier, février qui n'étaient pas du tout normales. Mais si on repense aux canicules qu'on a pu connaître en 2022, 2021 et les années précédentes, ça a un impact sur la santé aussi. Voilà, on dort mal, notre corps est fatigué, on a aussi des métiers à risque, tous les métiers où on force, on la force physique, c'est des métiers qui vont devoir aussi s'adapter. On ne peut pas faire travailler des gens, notamment dans la construction, le bâtiment, alors qu'il fait 40 degrés dehors, qui sont en plein soleil. Donc on va devoir modifier nos horaires de travail, modifier peut-être les périodes de travail, les protocoles, entre guillemets, hygiène, sécurité. Et puis, même si on fait ça, notre corps va se fatiguer. Et ceux qui vont avoir le plus d'impact sur leur santé, ce sont des personnes qui sont fragilisées. Ça peut être des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées, et donc on fragilise encore un peu plus notre société. Alors voilà, on a des solutions pour s'adapter. Je parlais, dans un métier, on peut changer les horaires, on peut faire des pauses plus longues, on peut penser à s'hydrater plus souvent et mettre des dispositifs pour l'hydratation, etc. Après, on peut aussi adapter notre ville. Aujourd'hui, effectivement, la ville d'Angers, comme beaucoup d'autres territoires et communes même d'Angers-Loire Métropole, revégétalise les cours d'école. C'est-à-dire qu'ils vont enlever le bitume d'une partie de la cour, remettre de la terre végétale, remettre des arbres, des végétaux, ce qui permet à l'eau de la pluie, de s'infiltrer mieux et de faire revivre les sols, ce qui permet aussi, lors des canicules, d'avoir une canopée, donc d'avoir de l'ombre naturelle. Et on voit des différences de comportement des enfants qui, effectivement, en 2022, dans les cours végétalisés, ont pu s'asseoir, se poser au pied des arbres à l'ombre, alors que, il n'y aurait pas eu ça, ils se seraient mis à l'ombre sous un préau avec le bitume qui rayonnait de chaleur. Donc c'est comment on garde les arbres qui sont en ville. Comment on remet de la végétation, arbres, pelouses, etc. en ville, comment on les entretient d'une autre façon pour qu'ils puissent mieux s'exprimer. Voilà comment on remet les végétaux en ville. C'est une des solutions qui permet effectivement de ralentir la hausse des températures en ville. Parce que quand on est en canicule, il peut y avoir parfois jusqu'à 10 degrés de différence entre l'hypercentre-ville, qui est très dense, très urbain, très minéral, et la campagne. Quand il va faire 35-40 à la campagne, il peut faire jusqu'à 45-50 dans les rues du centre-ville, et c'est invivable.
Donc justement, il y a une différence entre l'espace urbain et la campagne qui est plus éloignée, mais on imagine qu'il y a aussi des conséquences de ces hausses de température dans les milieux, comment dire, moins urbains. Quels sont-ils et quelles solutions vous apportez aussi à d'autres milieux?
Alors quand la canicule a aussi un impact donc, sur la biodiversité, hein, sur les végétaux et sur les animaux. On a pu voir en 2022 dans notre département des feux de forêt comme on n'avait jamais vu, des feux de prairies ou de cultures. On a aussi, lorsque les canicules arrivent trop tôt au printemps, des jeunes animaux qui naissent de l'année, je pense à des petits oiseaux, des petits mammifères, qui ne sont pas encore assez costauds pour résister à ces fortes chaleurs, à cette déshydratation, et on va avoir une forte mortalité chez les animaux. Donc on a un vrai impact sur la faune, la flore, la canicule, les fortes chaleurs, et puis le manque de précipitations aussi, souvent lié à ces épisodes de canicule, vont aussi aggraver cela. Et c'est aussi, on peut penser par exemple aux animaux d'élevage. Un troupeau de vaches qui reste dans une stabulation, sous bâtiment, et que quand sous le bâtiment il fait 40-45 degrés et que rien n'est prévu pour les hydrater plus que juste un abreuvoir, ces animaux aussi pâtissent en termes de santé et de production agricole, et des animaux qui restent au champ aussi peuvent ne pas trouver d'ombrage si on a fait disparaître toute la haie, si on a enlevé la petite zone humide, etc. Donc on va devoir réadapter nos paysages, réadapter notre façon agricole pour s'adapter au changement climatique.
Là, on parle de revégétaliser, mettre des arbres un peu partout, donner plus d'eau quand il le faut. Est-ce qu'on règle vraiment le problème à la source, là ?
Alors là, non, on ne règle pas le problème à la source. On essaie de trouver des solutions pour s'adapter. Hein. On est dans l'adaptation. C'est comment on va peut-être aussi adapter nos habitations. Hein. Il y a des collectivités qui sont en train de tester, de peindre en blanc les toitures. Il y a des pays, justement, dans le Maghreb notamment, ou en Grèce, quand vous regardez, les maisons, elles sont blanches, les toits sont blancs. Mais voilà, parce que ça absorbe pas la chaleur. C'est vrai que nous, à Angers, avec nos toits en ardoise grise, foncée, eh ben, ça ne va pas tout à fait avec, effectivement, une adaptation au changement climatique. Donc on a plein d'efforts à faire et plein de transformations à faire sur l'urbanisme et même en milieu rural, etc., pour s'adapter, pour essayer de vivre au mieux le changement climatique qui nous attend. Après, pour le diminuer, c'est un autre point de la politique. C'est comment on développe les transports en commun pour diminuer la place de la voiture, pour améliorer le bilan carbone de nos déplacements. C'est comment je vais consommer moins de viande, mais en consommant de la viande de qualité, de produits localement, dans une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais qu'en mangeant moins de viande, j'ai moins d'impact sur le changement climatique, le bilan carbone, la consommation d'eau, etc., etc. C'est comment je vais peut-être m'habiller différemment. La fast fashion, c'est compliqué. On consomme des vêtements et on ne regarde pas le bilan environnemental, écologique de chaque vêtement. À un moment donné, être dans la sobriété, la frugalité, c'est pas des gros mots, c'est pas revenir à l'âge de pierre et à la bougie, c'est juste dire, je consomme et je n'achète que ce que j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin, je fais durer ce produit le plus longtemps possible pour que son bilan carbone ou son bilan environnemental soit amorti sur un certain nombre de mois ou d'années, qui me permet justement de diminuer notre impact et de moins puiser dans les ressources, de moins consommer d'énergie et d'avoir un bilan carbone plus faible.
Dans le deuxième rapport du GIEC Pays de la Loire, donc on va rappeler un petit peu schématiquement, rappeler parce que c'est très dense, mais globalement on peut lire que la sécheresse c'est une des conséquences les plus préoccupantes du changement climatique, en tout cas dans le Pays de la Loire, et que les vagues de chaleur seront de plus en plus fréquentes et plus précoces dans l'année. Les scientifiques alertent également sur la forte urbanisation des côtes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les risques pour les prochaines années ?
Oui, alors le GIEC Pays de la Loire, qui n'est pas le GIEC international, le GIEC Pays de la Loire, c'est un groupement de scientifiques issus d'universités, d'écoles ou de laboratoires, etc., présents en région Pays de la Loire, qui ont travaillé justement avec les études du GIEC international et au regard de l'état des lieux de connaissances qu'on a dans notre région pour regarder ce qu'allait donner ce dérèglement climatique dans notre région et apporter aussi des préconisations. Il y a un constat, c'est que dans notre région, je disais tout à l'heure, on est dans une région tempérée et beaucoup de choses viennent être chamboulées. C'est-à-dire qu'on va avoir normalement en 2050 ou 2100 100, une température à Nantes et à Angers, comme si on était à Porto, au Portugal, voire comme si on était dans le sud de l'Espagne. Voilà, et 3 degrés de plus, c'est 4 mois dans notre région où la pelouse ne peut pas pousser. C'est-à-dire que la végétation ne poussera pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, que vont manger les vaches qui seront dans nos champs l'été? Donc voilà, alors à ce moment-là, on va devoir changer de modèle agricole, de production agricole. On va devoir aussi changer nos habitudes par rapport à notre consommation de l'eau directe pour boire, pour se laver, pour arroser nos plantes, mais aussi de l'eau indirecte. Dans tous les produits que nous consommons, alimentaires ou vêtements et autres, il y a de l'eau dans le process, de, soit agricole, soit industriel. Et on va devoir certainement faire de grandes, grandes économies d'eau.
Mon défaut à prendre les moins bon mon pied bois. Nos âmes sont fortes, elles viennent du sol. Nos peurs légères pour qu'elles s'envolent. Malakamaï, crois-tu qu'il faille fuir l'origine? Brûler les racines. Oi 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 oi. Ta voix m'a dit de si loin, tout va bien. Bien sûr, le feu brûle, mais tout va bien. Bien sûr, les vagues n'ont pas, tout va bien. Bien sûr, la terre tremblera, oui, mais tout va bien. Se nourrit de toi. Je suis un point que je ne pensais pas atteindre, une paix qui semblait bien trop loin pour mon âme. Ou pas si le temps le veut bien. Je travaille toujours au souvenir.
C'était Malaka Mai, du duo de chanteuses Malaka. Les deux sœurs ont sorti leur tout premier EP qui s'intitule Mai.
GIEC 27. La fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Xavier Mettet. Il nous parle de son engagement et de celui de France Nature Environnement. Vous, votre rôle France Nature Environnement, c'est d'alerter sur tout ça ?
Alors, c'est entre autres d'alerter effectivement. Alors, alerter sans être catastrophique, hein, voilà, on doit trouver des solutions collectives. Donc, nous, on appelle au dialogue environnemental de mettre autour de la table les élus, des citoyens, des acteurs économiques, des syndicats, les services de l'État, et qu'on arrive à échanger ensemble pour dès maintenant trouver des solutions d'adaptation au changement climatique. Hein, voilà, et, voilà, il a lieu. Il faut s'adapter. Comment on adapte nos villes, comment on adapte nos métiers, nos façons de produire, etc. Et puis aussi, peut-être trouver des solutions pour essayer de ralentir, de stopper ce réchauffement climatique. Là aussi, en ayant des propositions qui peuvent paraître parfois radicales. Voilà, on parle de sobriété, on parle de frugalité, mais nous, on essaye d'insuffler ça et de dire si on veut continuer à vivre dans un monde vivable, Où on prend du plaisir, on ne fait pas que subir. Il faut vraiment voilà, qu'on passe à l'action. Et passer à l'action, c'est changer de comportement en tant qu'individu, changer de comportement en tant qu'entreprise, que de société. Donc il y a un projet commun, un projet collectif que nous, on défend.
Justement, c'est quoi pour vous les principales causes que vous portez à France Nature Environnement ? Est-ce qu'il y a une priorité ? Est-ce qu'on doit mettre l'accent en premier sur certaines choses ?
Ben justement, l'entrée, on va dire, climatique est une très bonne entrée parce qu'elle est globale. On peut parler de lutte contre la perte de la biodiversité, la disparition de telle espèce d'oiseaux, de telle espèce d'amphibiens, de grenouilles, etc. Et on voit qu'il peut y avoir des raisons liées à la mauvaise qualité de l'eau, à la disparition des zones humides, à une activité agricole ou industrielle trop intensive, aux produits chimiques qu'on met dans nos campagnes, etc. etc. Mais et tout ça est accéléré par ce changement climatique. Donc, si on travaille sur la lutte contre le changement climatique et s'adapter, produire différemment, etc., on va globalement toucher aussi tous les autres sujets. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est globalisant, mais c'est très complexe parce que chaque sujet est un peu écosystémique, tout est lié, etc. Donc quand on va commencer à toucher quelque chose, ça peut aussi dérégler dans un autre sens. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés à ne rien faire, il faut agir.
Sur votre site internet, vous décrivez vos missions en 5 mots. Comprendre, protéger, alerter, convaincre et défendre. Donc vous informez le grand public, vous protégez l'environnement, vous alertez les pouvoirs publics, vous plaidez auprès des décideurs et vous n'hésitez pas à aller en justice lorsque le droit de l'environnement n'est pas respecté. Concrètement, aujourd'hui, au niveau local, quelles sont vos grosses batailles du moment ?
Alors sur la place Angeline, on en a quelques-unes. Je pense un peu à l'urbanisme, avec le projet de parking silo du côté de la Blancheraie, à côté du château, qui est aujourd'hui une aberration par rapport à la réflexion de la mobilité urbaine d'aujourd'hui et de demain, où on essaye de mettre en place plus de mobilité active, hein, le vélo, la marche à pied. La ville d'Angers a développé plusieurs lignes de tramway, on a des lignes de bus. Et là, de faire venir des centaines de voitures pour se garer dans un parking d'une centaine de places en plein centre-ville, c'est une aberration. Aujourd'hui, le modèle, c'est on fait des parkings relais, on évite que les voitures rentrent en ville et que les gens qui veulent aller en ville prennent d'autres modes de déplacement. Alors ça, c'est un combat là, d'aujourd'hui et des semaines à venir. On a aussi l'extension d'une zone logistique, la ZAC Océane 2. Alors quand on voit les impacts et les dégâts qu'ont pu produire la première partie de ces ZAC Océane à cheval sur Angers et Verrières en Anjou, c'est une catastrophe. Le projet Bouillu être remodelé en diminuant un peu les atteintes aux zones humides, c'est pas encore ça. Et nous, on va effectivement s'opposer à ce projet-là. Il y a aussi la question de la prison. Déplacement de la prison voilà, sur un site en zone agricole et naturelle avec des questions sur les accès, des questions sur peut-être qu'un boisement classé sera détruit. Comment on évite, on réduit et comment on va compenser ça ? Pas mal de questions en suspens encore sur ce dossier-là. Donc voilà, donc c'est quelques-uns des sujets que nous suivons à l'échelle angevine.
Sur la question, par exemple, de l'extension de la Nouvelle Océane, quel impact vous avez par rapport à une association comme, Extinction Rébellion ou Justice Climatique Angers ? Est-ce que c'est différent l'impact que vous pouvez avoir sur les pouvoirs publics ?
Alors nous, on se positionne pour rester dans le dialogue environnemental, rester dans le dialogue. Effectivement, les collectifs que vous avez pu citer avant se positionnent de façon un peu plus radicale que nous, sont plutôt à faire des manifestations, des pétitions, des rassemblements pour manifester leur mécontentement. Et ils ont raison de le faire parce qu'il faut aussi être entendu et que ça permet d'attirer l'attention des médias, des citoyens et que les gens s'intéressent au sujet. Nous, FNE Anjou, FNEP, de la Loire, on se positionne comme voulant discuter avec les acteurs du projet, essayer de les sensibiliser, de faire de la pédagogie, leur faire comprendre qu'on peut peut-être faire différemment, être force de proposition. Et puis que si la discussion n'aboutit pas, vous l'avez dit, on n'hésite pas à aller en justice. Et effectivement, ça sera peut-être, hélas, la dernière solution pour peut-être arrêter un projet destructeur.
Sur les derniers projets, sur les dernières discussions que vous avez, est-ce que vous avez l'impression d'être écouté ?
Alors, on a été en tout cas compris, puisque effectivement, la ZAC Océane 2 ne ressemble pas tout à fait à la première ZAC. Ils ont pris conscience, là, les porteurs de projet, la collectivité, qu'il y avait donc des enjeux environnementaux, qu'ils ne pouvaient pas tout raser, détruire pour mettre des boîtes à usine et derrière replanter quelques arbres. Donc là, ils ont fait un effort d'essayer d'éviter certaines zones à enjeu environnemental, linéaire de haies, zone humide. Mais à nos yeux, ça détruit encore trop fortement vraiment le territoire, c'est encore trop d'impact. Et puis, c'est aussi se dire que sur la première ZAC, Océane, les mesures compensatoires n'ont pas été réalisées, ou si elles ont été réalisées, elles ont été mal réalisées, et que voilà, là, la confiance a été un peu rompue quand même avec les porteurs de projets sur ce sujet-là. Et donc, on est très méfiant, on va être vigilant, et puis c'est un dossier qu'on va suivre.
Peut-être pour finir, quand vous dites aller jusqu'en justice, concrètement, ça se passe comment? Parce que j'imagine que ça demande des moyens, que ce soit financiers ou humains. Ici, par exemple, puisque vous avez une personne qui est dédiée à ça, comment vous êtes financé pour tout ça?
Alors, on a la chance à FNE Pays de la Loire, qui est la fédération régionale, d'avoir un collaborateur, donc un collègue qui est juriste en droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, et qui travaille à plein temps sur les dossiers juridiques. Alors, d'habitude, plutôt pour être force de proposition et pour améliorer justement les choses. Mais quand il le faut, il est saisi pour justement travailler, faire des recours juridiques, déposer des plaintes lorsqu'il y a des pollutions, des choses comme ça. Donc, on a vraiment cette culture et ce savoir-faire au sein de France Nature Environnement. Et voilà, quand une fois que les bénévoles décident politiquement d'engager un recours ou un contentieux juridique, et ben c'est des choses que nous savons faire.
Après tous ces constats, on a cherché par quels moyens un habitant angevin pouvait s'informer au sujet du climat. On s'est rendu à un atelier de la fresque du climat. 18h au 122, tiers-lieu culturel angevin. C'est ici qu'ont souvent lieu les ateliers labellisés fresque du climat. Ce soir, deux animateurs, ou plutôt deux fresqueurs, comme on les appelle, guident une vingtaine de personnes. Ces ateliers sont destinés aux élus, aux entreprises, mais ce soir, ce sont des particuliers qui se sont inscrits pour 5 à 10 euros. Pendant 3 heures, ils recevront des cartes sur lesquelles sont inscrites des informations au sujet des phénomènes climatiques, des acteurs du climat ou encore des catastrophes naturelles. Le but du jeu, réussir à les relier entre elles. Jean-Jacques Baton est fresqueur depuis peu.
C'est un sujet qui m'intéresse comme beaucoup de personnes, en particulier toutes les personnes qui sont présentes là aujourd'hui. Hein. J'ai participé à une fresque du climat il y a un petit peu plus d'un an hein, et je me suis dit je peux peut-être m'impliquer un petit peu plus. Alors il y a diverses façons de s'impliquer, mais une finalement relativement simple, c'est de devenir animateur de la fresque du climat parce que l'idée quand même est de démultiplier l'action.
Longtemps professeur au lycée et à l'université, c'est ce devoir de transmission qui l'a poussé à devenir fresqueur.
Le climat, c'est aussi une question d'éducation. Il faut que les gens comprennent, le sachent. Donc ça me semble important. Je pense que c'est ma petite contribution à l'avancée, à quelque chose qui fait que peut-être on n'ira pas dans le mur. Mais globalement, oui, c'est cette envie de participer et de ne pas rester finalement les bras ballants. On a bien conscience qu'il y a un problème climatique, mais il y a beaucoup d'informations qui circulent, des informations, des contre-informations. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ou est-ce que tout ça, c'est du buzz? Et puis, bon, d'ici quelques années, on n'en parlera plus parce que ce sont des variations naturelles. Donc, il faut essayer de faire un petit peu le tri autour de ceci. Et pour faire le tri, il faut vraiment s'appuyer sur des choses qui soient indéniables.
L'ensemble de l'atelier s'appuie sur des données du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On parle industrie, transport, hausse des températures ou encore énergie fossile. Le fresqueur est aussi là pour donner des précisions.
Pourquoi fossiles ?
Parce qu'elles ont été créées il y a très longtemps.
Elles sont limitées, oui. Oui, ça c'est une des craintes qu'il n'y en ait plus, sachant qu'on peut avoir un problème, notre problème avant d'épuiser. C'était une crainte qu'il y avait alors à une époque que vous n'avez pas connue, c'était les années, dans les années 70, il y avait un groupe qui existe toujours, le Club de Rome, hein, qui s'alarmait en disant attention, on utilise du pétrole, du charbon, etc. Nos ressources ne sont pas inépuisables, on va les épuiser, on va épuiser la Terre.
Pour Jean-Jacques Baton, les personnes qui participent à cet atelier sont souvent celles qui se préoccupent déjà du climat.
Mais il faut aussi que ces personnes-là, du coup, soient outillées pour discuter avec les autres, pour aller convaincre les autres et pour déconstruire des arguments, des choses, pour avoir des contre-arguments scientifiques. On a des gens qui ne sont pas convaincus d'un certain nombre d'éléments ou qui parfois affirment des choses qui sont soit fausses, soit exagérées, quoi. que j'ai constaté à titre personnel et en échangeant avec les autres, c'est que une partie aussi des ateliers qui est vraiment extrêmement intéressante, c'est l'enrichissement par les autres. Voilà, l'échange, ce que disent les autres, ce que pensent les autres, quelle est leur vision, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant.
De l'autre côté de la pièce, le deuxième groupe est en avance. Pour l'animatrice Valérie Alain, malgré le funeste constat de la catastrophe climatique, il reste quand même une bonne nouvelle.
On voit bien avec les fresques que c'est systémique, c'est-à-dire il y a des boucles de rétroaction, il y a des implications qui partent à droite, à gauche et tout ça, c'est vraiment systémique. Par contre, le seul point positif de la fresque, c'est que ça part des activités humaines, et donc c'est là qu'on a la main dessus. C'est la seule chose qu'on peut changer. Donc les activités humaines, c'est principalement l'industrie, les bâtiments, l'agriculture et le transport. Voilà. Ils sont responsables à peu près pour un quart chacun. Donc ce n'est pas en électrisant toutes les voitures ou en produisant que de l'agriculture bio sans intrants. Ça ne changera pas tout, il faut vraiment travailler sur les quatre en même temps.
Et alors, comment on se sent après tous ces constats? Un temps est réservé pour que les participants puissent digérer les informations.
Ça fout les boules. Ça fait un peu peur. Un peu peur.
Moi, j'avoue que je suis pas hyper enthousiaste. Disons que c'est mieux rangé dans ma tête. J'avoue que j'ai pas plus d'espoir qu'en arrivant. Voire peut-être un peu moins même.
Ça donne envie de mettre à bien des projets et qu'il y ait plus de choses mises en place pour que la prise de conscience soit plus générale.
À peine le temps de sécher ses larmes et de calmer son éco-anxiété, c'est déjà le moment de trouver des solutions à l'urgence climatique.
On va essayer en fait je vais faire réfléchir les personnes sur ce qu'on peut faire à trois niveaux, au niveau individuel, au niveau politique, institutionnel et aussi au niveau de l'entrepreneuriat, des entreprises hein, qui ont des choix aussi. Un choix par exemple qui émerge très rapidement dans les propositions, c'est mise en place du télétravail. Quoi. Être végétarien, emprunter, louer pour une utilisation occasionnelle, facile à mettre en œuvre, effectivement, hein. Faire un compost, garder son téléphone le plus longtemps possible. Effectivement, oui, hein, ça c'est un poste, hein, le téléphone, tout ce qui est électronique. Hein.
Chacune et chacun écrit ses idées de solutions sur des post-it. Le temps du débrief permet d'échanger. Pour certains participants, l'objectif est aussi de trouver des arguments pour plaider la cause de l'environnement.
Adopter un mode zéro déchet, pourquoi ça génère moins de CO2?
Bon, parce que tout l'impact du plastique est quand même loin d'être moindre.
Toi, tu divises ta consommation, mais... Enfin, malheureusement, sur une personne, non, c'est minime.
Je pense que c'est si tu fais la moyenne de tous les individus. Enfin, si tout le monde adopte un mode de vie zéro déchet.
Mais au niveau individuel, hein, alors une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, que je fais parfois quand j'ai des connaissances, des amis qui me disent ouais, je veux bien faire des efforts, mais enfin, n'exagérons pas, c'est peanuts, quoi. Donc la réponse que je lui fais, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je lui dis, donc on est bien d'accord, tu ne vas jamais voter. Et du coup, on me regarde généralement avec des yeux ronds, je ne vois pas le rapport. Je dis, c'est pas un bulletin de vote qui change le résultat des élections.
C'est quelque chose souvent que, pour moi, j'ai du mal à répondre. Tu n'as pas forcément d'argument pour dire, même si toi tu le fais, en fait, si tout le monde le fait, ça a un impact.
Une autre solution.
Fresquer pour 10 personnes par an, effectivement, ouais, hein, excellente piste, c'est un des choix que j'ai fait.
Après cet atelier, certains se formeront et deviendront à leur tour des fresqueurs. Il est aussi possible de participer à de nombreux ateliers dérivés de la fresque du climat. Retrouvez la fresque de la biodiversité, celle du numérique ou encore de l'alimentation. Et tout de suite, on écoute Tempête à l'île de Seine de l'artiste Ojoun, issu de son carnet de voyage sonore sur le littoral breton.
GIEC 27. La fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio Campus Angers.
«
suite à cet atelier, j'ai rencontré le co-référent 49 de la fresque du climat. Nous avons parlé de l'importance de la transmission et du jeu pour éveiller les consciences. Je lui ai aussi fait part de quelques questionnements autour de la popularité de la fresque du climat. Bonjour Jean Hainaut, merci d'être avec nous. Vous êtes quelqu'un de très investi pour l'environnement. Vous êtes co-référent Maine-et-Loire de la fresque du climat, enseignant à l'université sur les thématiques de l'écologie et du développement durable. Vous avez aussi créé une entreprise qui s'appelle Oikos, dont on parlera peut-être un peu après. On voit bien que pour vous, la transmission est importante quand il s'agit des enjeux climatiques. Pourquoi ?
Alors oui, très bien, merci pour cette présentation. Ça regroupe en effet toutes mes casquettes. La transmission, elle est super importante parce que le changement climatique et la transition écologique, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est l'affaire de toutes les générations. Et donc on a vraiment besoin que l'ensemble des personnes soient au courant des enjeux et puissent agir. Et donc c'est pas juste aux vieux de se prendre ça en main ou aux jeunes de prendre ça en main, c'est à tout le monde de transmettre l'information parce qu'on est tous dans le même bateau.
Vous avez un peu anticipé une de mes questions, mais donc c'est vrai qu'en prenant en compte vos différentes casquettes, vous intervenez surtout auprès des adultes et peut-être aussi en tant qu'enseignant auprès des plus jeunes. C'est important à tous les âges de la vie de continuer de s'informer à ce sujet et d'être aussi acteur.
Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'interviens pas en dessous de la fac. Je laisse ça à d'autres collègues qui sont très compétents là-dessus, notamment tous les profs de collège et de lycée qui font très bien leur travail sur ce sujet-là. Mais moi, mon mot d'ordre, c'est toujours de laisser personne de côté sur les enjeux climatiques. C'est-à-dire qu'à titre professionnel, j'interviens pour des adultes. À titre bénévole, dans la fresque du climat, etc., j'interviens aussi pour des enfants, pour des publics collégiens, lycéens, des gens aussi éloignés parfois de l'enseignement ou des structures classiques, des secteurs défavorisés, des personnes en situation un peu précaire. Et l'idée, c'est bien que tout le monde peut être sensibilisé et doit être sensibilisé.
Donc, il y a une forme d'inclusivité dans cet apprentissage qui est importante. Comment on fait, par exemple, pour aller chercher les personnes qui n'ont pas forcément accès à l'information ou qui, par souci financier, ne vont pas aller s'inscrire à une fresque du climat ou quelque chose comme ça ?
Ouais. Alors déjà, sur beaucoup de sujets, la transition écologique, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la gratuité des savoirs. La fresque du climat, il y a beaucoup d'endroits, et à Angers, c'est le cas, où si les gens n'ont pas les moyens, ils ne payent rien. Ils font l'atelier et puis ils n'ont pas à payer pour un atelier. Le but premier, c'est de sensibiliser. Et ensuite, on travaille aussi beaucoup avec les structures qui existent déjà localement. C'est-à-dire que on n'a pas pour volonté dans la transition écologique, dans la fresque du climat notamment, ou dans mon entreprise, de réinventer tout. Il y a des gens qui ont déjà des réseaux pour travailler avec les personnes en situation défavorisée, pour travailler dans des quartiers prioritaires, pour travailler tout ça. Et on va avec eux pour proposer nos services en complément de ce qu'ils font d'habitude. Ils ont déjà un tissu local, ils ont déjà des réseaux, des relations. Il faut s'appuyer sur ce qui existe.
Et donc, pour continuer sur ces questions-là de transmission, est-ce que vous pensez que la sauvegarde de l'environnement et la réponse à l'urgence climatique passe aussi par la pédagogie ? Et donc, est-ce que dans la forme, qu'est-ce qui est important ?
Eh bien, ça rebondit exactement sur ce que j'ai vécu hier soir. J'étais à un conseil d'administration d'une banque pour faire une conférence et, la réponse des gens à la fin, ça a été « Ah bah, votre discours est enthousiasmant ». Et moi, ça me touche parce qu'en fait, c'est exactement ce que je trouve le plus important. Il faut donner envie aux gens de faire de l'écologie. Il faut donner envie de s'engager. Si c'est que de l'écologie ou c'est des contraintes ou c'est punitif ou c'est vous faites ça et puis vous n'aurez plus le droit de, ça marche jamais. Et en fait, on peut faire prendre conscience aux gens que l'écologie, c'est aussi du plaisir, c'est du bonheur. Moi, je suis heureux d'être dans la transition écologique. Je connais plein de gens qui sont heureux de le faire. Et souvent, les gens qui ne sont pas heureux de s'engager dans l'écologie, c'est des gens qui n'ont pas forcément justement été en mesure de mesurer le chemin qu'il y avait à faire et par quelle action commencer. Ils sont peut-être parfois trompés d'action prioritaire, ils sont trompés d'engagement. Et c'est là où c'est dommage, parce qu'on a des gens qui vont s'essouffler et qui vont se fatiguer.
Donc il faut rester réaliste et en même temps voir qu'il y a aussi du positif. Ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle société.
Complètement. C'est en fait, il y a beaucoup de choses à réinventer. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, j'ai tout juste 30 ans, donc je suis encore dans la jeune génération. J'ose me considérer dans les jeunes. Et en fait, on est dans une génération où on a la possibilité de faire énormément de choses, de bouleverser le monde comme jamais auparavant. Et il faut saisir ce moment-là en se disant, en fait, c'est là qu'on a besoin des créatifs, des artistes, des gens qui ont envie d'inventer des nouvelles choses. En fait, le champ des possibles est énorme.
Donc, dans vos interventions auprès du public, vous transmettez, donc j'imagine, c'est pas que les informations, mais aussi des pistes d'action,
oui.
des idées de solutions à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Après, il y a différentes échelles, différents acteurs que vous rencontrez. Mais...
Moi, je travaille tout le temps. Un des points les plus importants pour moi, c'est de parler de l'action individuelle. Pas pour dire que ça repose essentiellement sur les épaules des gens, mais pour faire prendre conscience à chacun que chacun peut agir à son échelle. Mmh. Évidemment, quand on est en même temps qu'être citoyen, on est patron d'entreprise ou alors on est élu local, on a un pouvoir d'action qui est encore plus important, et plus on est avec un portefeuille important, on va dire, plus on a des pouvoirs d'action importants. Mais globalement, tout le monde, en fait, les actions, on me demande tout le temps une liste d'actions toutes faites pour agir sur le climat. J'ai tendance à dire que les actions, elles existent, on a une liste de tout ce qu'on peut faire, et en fait, c'est juste que chacun va devoir piocher dans cette liste les actions qui vont être pertinentes pour lui. Pour certains, se passer de la voiture, c'est impossible. Pour d'autres, aller au boulot tous les jours en vélo, c'est parfaitement faisable et enthousiasmant, ils ont envie de le faire. Pour d'autres, c'est le côté physique qui va être compliqué. Pareil pour les achats locaux, bio, de saison, etc. C'est pas toujours possible. Et ce qui est important, c'est bien de se dire aussi, il y a des actions qui sont faisables à des moments de la vie, qui ne sont pas à d'autres moments de la vie. Moi, je prends l'exemple, voilà, j'étais étudiant il y a quand même pas très très longtemps. Et bien, quand on est étudiant, il y a plein de choses qu'on n'a pas, on n'a pas le pouvoir d'action dessus. Ouais. Et donc, c'est comment on agit sur les choses où on peut avoir le pouvoir d'action. Et ne pas essayer d'agir contre les trucs qui sont insurmontables, parce que je pense qu'on risque de se fatiguer.
C'est frustrant aussi.
Voilà, et c'est frustrant.
Donc si j'ai bien compris, vous êtes aussi dans plusieurs entreprises où vous œuvrez aussi pour le climat, mais là au niveau de l'entreprise, donc il y a par exemple Oikos où vous travaillez en tant que consultant, il y a aussi l'entreprise Green Dot, quels sont vos moyens d'action à ce niveau-là?
Ouais, alors chez Green Good, je ne suis que actionnaire de l'entreprise, mais en effet, j'ai essayé de m'investir un peu plus. C'est un exemple, c'est un bon exemple parce que Green Good, c'est donc une nouvelle banque qui propose des solutions d'épargne orientées climat. Et donc, en fait, l'idée, c'est que tous les gens décident de où est-ce qu'on met l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la banque. Et on a de l'argent qui dort sur un compte, mais où on sait qu'il ne finance pas l'énergie fossile. Et donc, moi, j'ai commencé, j'ai découvert Green Good, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon argent, un peu d'argent là-dedans, un peu d'épargne. C'est pas mon compte principal pour l'instant, mais en tout cas, met un peu d'argent, et un jour il y a l'opportunité de devenir actionnaire, donc de prendre des parts et de se dire on prend part à la décision, au vide de l'organisation, et là c'est vraiment une démarche qui permet de montrer que dans ce nouveau monde de la transition écologique, ces choses-là étaient impossibles avant dans d'autres banques, maintenant elles deviennent possibles de pouvoir prendre des décisions, discuter avec les dirigeants de la banque, d'aller à des rendez-vous sur Paris pour en discuter avec eux, etc. Et voilà, on voit que le niveau d'action il change et qu'on est capable maintenant de proposer de nouveaux modèles de société.
Pour notre émission, donc, on a participé à un atelier fresque du climat.
Super.
C'était la première fois pour moi. Et la fresque du climat, pour vous, c'est quoi ? C'est le premier pas à faire quand on s'intéresse à l'écologie ? C'est un premier éveil ? Ou alors c'est pour des personnes qui sont déjà au courant et...
Alors, jusqu'ici, on avait beaucoup de personnes qui étaient un peu déjà au courant. C'est-à-dire qu'à la fresque, on a sensibilisé près d'1,5 million de personnes en France et dans le monde. On estime qu'on a fait, on va dire, la partie la plus facile, avec les gens déjà sensibilisés, déjà au courant, qui voulaient aller plus loin, qui voulaient comprendre plus, s'engager encore plus loin. Maintenant, il va falloir qu'on aille toucher les gens qui sont justement éloignés de l'information, éloignés des savoirs climatiques. Moi, je trouve que c'est une bonne première étape, parce que la fresque du climat, elle a le mérite de montrer l'ensemble des enjeux climatiques et surtout des conséquences directes sur la vie et des actions possibles à faire à la fin en discutant, en échangeant ensemble. Maintenant, il ne faut jamais oublier que la fresque du climat, elle parle de climat. Elle ne parle pas de la biodiversité, des limites planétaires. Il y a plein d'autres fresques qui existent maintenant. Donc moi, je dis que c'est une porte d'entrée. Moi, je l'utilise beaucoup parce que, en fait, quand on est capable de comprendre les enjeux climatiques, la manière dont est faite la fresque et l'ancienneté qu'elle a et la structure qu'elle a, en fait, ça permet aux gens d'ouvrir leur esprit et leur manière de penser. Et après, ils sont, je trouve, plus mûrs pour aller voir d'autres supports, d'autres fresques, d'autres outils. Parce que s'ils se prennent dès le début une fresque des mythes planétaires ou autre chose, parfois, ils ont l'impression de tomber dans un truc abyssal et complexe. Déjà, la fresque, c'est complexe, c'est du climat. Mais après, voilà, on peut vite avoir peur de l'ensemble de ce qu'il y a à voir, alors que la fresque du climat, la méthode marche bien.
Et donc l'animateur de la fresque que nous on a rencontré pour notre reportage nous a dit que participer à une fresque c'était aussi faire le tri parmi la pléthore d'informations qui sont parfois contradictoires, notamment sur les réseaux sociaux par exemple. Vous êtes d'accord avec ça?
Complètement. La fresque elle est basée sur des sources scientifiques. Tout ce qu'on donne et dit dans la fresque est sourcé scientifiquement et ça c'est un gage de qualité. La plupart des fresques le font. L'idée c'est quoi? C'est de permettre aux gens de se dire nous on s'intéresse, on nous apporte du contenu contenu qui est scientifique. Et l'engagement de l'animateur de la fresque, c'est de pouvoir donner ses sources, de pouvoir dire voilà d'où vient l'information. Justement pour éviter le j'ai entendu sur internet, j'ai lu sur une page Wikipédia que, ou mon copain m'a dit que machin.
Ça, c'est un peu le risque actuel par rapport. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, ça, par exemple ?
Non, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de climato-sceptiques, il y a de moins en moins de gens qui veulent remettre en cause, c'est juste qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent comprendre. Et c'est légitime de vouloir comprendre. Et moi, maintenant, mon travail, c'est essentiellement de la sensibilisation et un peu d'accompagnement aussi jusqu'à la mise en place d'actions, mais beaucoup de sensibilisation parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de démêler le vrai du faux et d'avoir quelqu'un qui leur dit « voilà ce qu'on sait ». Attention, je dis bien « voilà pas la vérité », parce que la vérité, la science, c'est toujours un peu de découverte. Mais voilà ce qu'on sait aujourd'hui sur cette situation-là. Et voilà, du coup, par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on peut imaginer pour la suite et où on peut aller. Et ça, c'est important parce qu'on a de tout sur Internet et dans nos métiers, dans mon métier de transition écologique et de conseil, ben maintenant, moi, je connais les chaînes YouTube qui sont intéressantes pour avoir des sujets qui sont bien creusés, bien sourcés, pour avoir les gens qui vulgarisent l'information correctement et pour éviter aux gens de se perdre dans le méandre de l'information.
Oui. Et ces dernières années, donc vous le disiez tout à l'heure, cet atelier sous forme de jeu a pris énormément d'ampleur. Près d'1,5 million de Français y auraient participé. Et c'est même maintenant quelque chose qui s'exporte à l'étranger. Pour vous, ça veut dire quoi l'ampleur que ça prend ? Est-ce qu'on a besoin du jeu pour appréhender des enjeux aussi compliqués ?
Oui, clairement. On a besoin de pédagogie, on a besoin de jeu, on a besoin d'enthousiasme aussi. Il y a encore des gens qui sortent de fresques en disant « oh, je suis triste et c'est tout ». Et moi, je considère que c'est une fresque qui, malheureusement, n'a pas forcément été réussie. Pour moi, une bonne fresque, c'est une fresque où les gens ont compris et les gens ressortent en ayant envie d'agir, en ayant vraiment la motivation de se dire « un autre monde est possible, on peut faire des choses. » Alors, tous à leur échelle, hein, mais on peut agir. Et la fresque du climat, elle a cette force de pouvoir avoir construit un jeu autour d'un sujet extrêmement complexe et d'avoir quand même réussi à le faire en 3 heures. Les gens me disent souvent, en 3 heures, c'est long. Oui, mais ce qu'on fait en 3 heures en fresque, moi, je le fais en 40 heures en cours en fac.
Ouais.
Donc voilà, c'est une mode de résumé qui est quand même extrêmement intéressant. Et le fait de mettre les gens en jeu aussi, ça permet de confronter les uns aux autres, de discuter, comme vous avez pu le vivre, avec un collègue, d'échanger. Tiens, t'es pas d'accord là-dessus, t'as tel avis, etc. Et on se confronte aux autres et ça crée aussi notre mode de pensée, ça nous aide à mieux penser la suite.
Donc l'aspect de la fin des solutions, là, il est quand même très très important, c'est vrai, sinon...
C'est le point le plus important de la phrase.
Sinon on ressort de là complètement...
Si c'est juste avoir des infos sur tout va mal et puis changement climatique, c'est des conséquences désastreuses, dans ce cas-là, il suffit d'aller lire n'importe quel papier sur internet et vous aurez l'information. C'est pas le principe de la phrase. Le principe de la phrase, c'est de ordonner ça, de classer ça dans l'ordre, qu'est-ce qui fait quoi, et surtout de se dire comment je me sens vis-à-vis de ces enjeux-là, comment j'intériorise tout ça, pour bien imaginer qu'on ne peut pas agir tant qu'on sait pas, on n'a pas compris le problème, et tant qu'on ne sait pas où on se situe émotionnellement par rapport à ce problème-là. Si on est au fond du trou et qu'on a besoin encore de temps pour remonter la pente, et ben c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir agir autant que les autres.
Désormais, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a aussi la fresque de la biodiversité, des forêts, du numérique, il y a aussi les ateliers d'automne par exemple. Donc une multitude d'ateliers qui découlent de ce succès de la fresque du climat. Et moi, une question que je me suis posée en voyant tout cet écosystème, je me suis demandé, est-ce qu'on n'a pas là l'ouverture d'un nouveau marché qui reprendrait un peu les codes d'une économie capitaliste, quoi ?
Eh ben oui, si on continue d'avoir des gens qui vendent des ateliers à 2000 balles tous les soirs et qui en font. Alors moi, je connais, à titre personnel, je connais pas mal d'animateurs de fresques, je ne connais personne qui ne vit que de ça. C'est-à-dire que c'est tous des gens qui ont un métier à côté, alors souvent dans le conseil, la transition, la formation, mais je connais personne à part quelques-uns, peut-être sur Paris, parce que c'est les fondateurs des fresques, et donc c'est aussi leur expertise. Autrement, je connais personne qui vit de ça.
Parce qu'il faut différencier les fresques du climat au niveau individuel et au niveau des entreprises.
Oui, tout à fait. Il y a aussi ça qui est différent. C'est-à-dire que moi, en tant qu'animateur de la fresque, et surtout en tant que référent et membre de l'association, on va dire actif, je fais énormément de choses bénévolement. Il y a plein de choses que je fais bénévolement. Je ne gagne 0 euros sur mes interventions pour le grand public, pour même en université. Alors, je suis payé sur mon heure de cours, mais je ne vais pas toucher 2000 balles parce que j'ai fait une fresque à 3 heures pour des étudiants.
Ouais.
Donc, il y a vraiment un modèle économique qui a dès le début été pensé pour permettre justement au plus grand nombre d'être sensibilisés et de se dire des entreprises qui ont les moyens vont payer des sommes un peu plus importantes pour permettre aussi aux animateurs de dégager du temps pour faire ça bénévolement à côté pour ceux qui n'ont pas les moyens. On serait dans un modèle purement capitaliste, tout le monde paierait et puis il n'y aurait pas de problème là-dessus.
Et un autre aspect aussi, pour le fondateur de la fresque, Cédric Ringenbach.
Il ne vous en voudra pas si vous écorchez son nom.
C'est compliqué. Les entreprises qui n'utiliseraient la fresque du climat que pour cocher des cases dans leur bilan RSE prennent un risque. Dans le journal des Échos, il affirme que cette fresque, c'est un puissant antidote contre le greenwashing, car les salariés deviennent les gardiens de leurs actions. Certains en ressortent même avec des idées de diversification. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Complètement. Moi, j'ai l'expérience de au moins deux, trois entreprises dans lesquelles j'ai travaillé qui m'ont appelé juste pour faire une fresque en disant voilà, on a envie de faire une fresque. Pas forcément pour du greenwashing, mais pour se dire bon, c'est la mode, c'est un truc, on en a parlé, donc bon, ça ferait bien pour le séminaire de l'entreprise. Ils ont fait une fresque et je me souviens d'un patron qui m'a rappelé en disant, en rigolant, mais sur le principe, ça l'a quand même pas mal bouleversé. Il a dit j'aurais jamais dû faire ça. Ils ont plein d'idées maintenant. Ils ont envie de faire plein de trucs, ils ont envie de tout bousculer, de faire de nouveaux projets, de nouveaux produits. Et en fait, quand une fresque est bien amenée, bien construite avec le public, en s'adaptant au public, c'est aussi un travail de s'adapter à des professionnels ou à des grands publics ou à des salariés ou à des patrons. Et en fait, de se dire concrètement, si on leur parle avec leurs mots et qu'on s'intéresse à eux et qu'on s'intéresse à leur possibilité d'action, on se rend compte que c'est un vrai, vrai vecteur de changement et de mise en action.
Merci beaucoup pour vos réponses, Jean Hainaut.
Pas de rien, merci à vous.
Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à cet épisode de GIEC 27. Merci encore à nos invités. Si le sujet d'aujourd'hui vous a plu, vous a fait réagir ou réfléchir, dites-le nous dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site internet de Radio Campus Angers. Retrouvez également dans la description de l'épisode des articles, des émissions et des ressources qui nous ont été utiles pour préparer cet épisode. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de GIEC 27 sur Radio Campus Angers.
GIEC 27, une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes vos plateformes de podcasts.